19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes, un, d'abord, de plus en plus nombreux à nous suivre. Mais surtout, on est ensemble jusqu'à 20h-20h pour analyser, commenter et décrypter l'actualité. L'actualité est certainement de plus en plus dense. Ce qui a retenu notre attention aujourd'hui, on ira direction la guerre en Ukraine, vous savez, avec cette inquiétude, ce pessimisme qu'Emmanuel Macron, qui dit clairement ne plus croire à un cessez-le-feu. Et c'est réaliste parce qu'il a réuni au château de Versailles aujourd'hui, vous savez, les 27 chefs d'État pour parler et prendre des décisions. On en parle dans une poignée de minutes parce que effectivement, aujourd'hui, tout le monde condamne ce fameux bombardement de l'hôpital pédiatrique de Mariupol. Et effectivement, on peut s'inquiéter. Autre sujet qui a retenu notre attention, Emmanuel Macron qui envisage toujours de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Est-ce que cette déclaration ne fait pas évidemment écho à cette campagne présidentielle? Évidemment, et il en parle, cette décision pourrait être prise dès 2023, repoussée dès 2023. Ensuite, un autre sujet qui est aussi d'actualité, les élections présidentielles avec les quartiers populaires qui sont au cœur de la campagne. N'est-ce pas les oublier tout simplement de cette campagne présidentielle? Mais surtout, j'ai envie de vous dire, les quartiers populaires existent-ils encore aux yeux des candidats? C'est la question qu'on va se poser. Et c'est vrai parce que beaucoup se disent qu'ils peinent à exister dans la campagne. 19h30, c'est le billet d'humeur, le quoi de neuf de Pascal Boniface. Vous le savez, le patron de l'IRIS, le géopolitologue, mais surtout également vous au 01 53 48 3000. Je vous attends au 01 53 48 3000 pour venir commenter avec nous l'actualité. N'hésitez pas. Et tout de suite, pour démarrer l'émission, c'est le face-à-face avec les débatteurs influenceurs qui sont avec nous. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, mais surtout en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Le face-à-face.
Les informer, le face-à-face.
Bonjour Eddy Kassi, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Eddy Kassi? Pourquoi vous rigolez?
Non, je...
Ah, je vous ai grillé, hein?
Non, je salue votre dextérité à l'antenne. Je trouvais l'introduction très très fluide et non, mais ça m'amusait.
Je récite toute la journée, je l'apprends, je récite.
Quel professionnel.
T'as vu,
le professionnel.
Je retravaille mon conducteur, je retravaille le chapeau, je me dis le lancement il est pas bon, je le retravaille, je l'ai réécrit.
Et heureusement que vous n'êtes pas seul dans cette équipe, hein, n'est-ce pas?
C'est ça, exactement. Rudy, c'est un élu de la République, mais c'est aussi celui qui est le secrétaire général. Délégué général, pardon, de l'Association des élus de France. Comment ça va, mon cher Rudy?
Ça va bien.
Bon. À vos côtés, c'est Abdeslam Itach. Abdeslam Itach, qui est le coordinateur, justement, du Modem dans le 95. Bonsoir, Abdeslam Itach.
Bonsoir, Adil. Alors, quelques précisions. Je suis vice-président du Modem 95 et responsable de circonscription pour les élections présidentielles et législatives.
Ah, ça, je ne savais pas.
Ah oui.
Eh bien, bravo.
Une petite marche en plus.
Bravo, une petite marche en plus. Absolument, c'est bien. Allez, en face également, c'est Nadir Kaya, le président de Banlieue Plus. Bonjour Nadir Kaya.
Bonjour, une petite précision, Banlieue Plus et nos quartiers.
Et nos quartiers, absolument. Vous avez raison tous de préciser.
Comme on est dans la précision là, oui, aujourd'hui. Non,
je crois que j'ai voulu faire une fiche au début d'émission.
Non, mais c'est bien. Ça vous
c'est
permet aussi.
Il fait beau aujourd'hui.
Non, mais ça vous permet aussi. Temps. Non, mais ça vous permet aussi à vous, évidemment, de compléter votre. Il fait chaud, hein?
Oui, il fait chaud.
Je sais pas, ils ont décidé de nous.
Mais c'est bon.
C'est ça, hein, Giovanni, il fait la clochette. Mais non, mais il fait bon, il n'y a plus de clim, les amis.
J'espère que c'est pas une centrale qui a
c'est
sauté.
C'est la manif de la clim.
Ah ouais, d'accord.
Okay. Redig, il dit. Comment?
J'espère que c'est pas une centrale qui a sauté, si je peux me permettre.
Bon, il a droit à une clochette, lui. Il est incroyable, Nadir Kaya. Messieurs, tout de suite, nous allons aller direction Versailles avec la tenue, vous savez quoi, de cette réunion spéciale, cette réunion qui se tient en ce moment même, d'ailleurs. Cette réunion où Emmanuel Macron a précisé qu'il était inquiet, pessimiste, et qu'il ne croit pas du tout à un cessez-le-feu, surtout effectivement lorsqu'on pense que alors l'acte de guerre qui est aujourd'hui indigne quand on bombarde la maternité de Mariupol. Rudy Kassi, à vous la parole. Il faut qu'on en parle. Je vous pose la question.
Non, mais c'est.
Est-ce que.
C'est invraisemblable.
Non, mais attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne devient pas cette guerre en Ukraine extrêmement préoccupante?
Ben, elle est depuis le début. Bien entendu qu'il faille s'indigner et même s'émouvoir d'une maternité qui a pris les bombes. Mais effectivement, est-ce que c'est plus grave qu'il y ait une maternité qui explose que des bâtiments où il y a des civils qui explosent? Je dirais que la guerre est cruelle et elle fait des victimes partout.
C'est un symbole.
Non, bien sûr, mais c'est un symbole. Mais du coup, si on est sur les symboles, ça veut dire en fait que l'on est aussi quelque part dans, on est un peu aussi dans la communication. Parce que c'est pas la première maternité qui a été touchée, c'est la troisième depuis le début du conflit. Pourquoi est-ce qu'on s'en est pas ému pour la première qui a été touchée? Moi, je suis tout à fait sur la ligne de faire preuve de compassion vis-à-vis de ces peuples. Je veux dire, c'est mon mood, c'est ma façon de fonctionner, la compassion, la justice, etc. Mais faut faire attention aussi à ne pas mener aussi une guerre de communication qui aurait plutôt tendance en fait à toucher, on va dire, la corde sensible des populations qui s'en émeuvent déjà assez. Je veux dire, c'est un conflit. De même peuple, c'est une guerre fratricide, c'est déjà ça le drame. Imaginez en fait une famille où un frère ou des frères en fait se font la guerre, c'est ça qui est grave en fait. Bon, et puis derrière, en toile de fond, il y a quand même toute cette question géopolitique de la Russie qui ne veut pas se faire menacer par l'OTAN et d'une Ukraine qui est devenue un État souverain et qui veut se rapprocher de l'OTAN et de l'Europe, etc.
J'ai fait un tour de table, messieurs, si vous voulez bien, et surtout entendre évidemment les autres voix, les autres opinions. Et je rappelle que ce sommet, qui est complètement informel, hein, 27, donc qui s'empare de la question à Versailles pour essayer évidemment de trouver. À Versailles en plus. Effectivement, même, on le sait, Versailles, c'est tout un symbole.
Et ce qui est marrant, c'est que la dernière fois que le président de la République a réussi un chef d'État, c'était pour Poutine. Donc, à mon avis,
c'est pas le fruit du hasard.
Ce n'est pas le fruit du hasard.
En grande pompe.
En grande pompe, tout à fait.
Déjà à l'époque, ça avait étonné Versailles. Donc là, il a récidivé avec
l'Europe. En 2017, juste après son élection.
Sachant qu'il est quand même à la tête de l'Europe le temps de cette mission. Donc je pense qu'il a voulu taper fort et envoyer un signe fort à Poutine en disant voilà, je réunis toute l'Europe, donc toute l'Europe de son poids va peser. Même si en temps normal, elle n'a pas l'habitude d'être unie. On le voit, elle est souvent plus unie face à des difficultés. Et même quand il y a des difficultés, c'est pas évident. Donc là, il a un super challenge, une super carte à jouer. Je ne sais pas s'il pourra réellement faire peser la balance dans la direction d'un cessez-le-feu, parce qu'on voit que de l'autre côté, Erdogan, lui, a réussi à mettre les deux parties autour d'une table, la diplomatie russe et en même temps la diplomatie ukrainienne. Donc, ça va être difficile. Et franchement, je ne pense pas que Poutine va vraiment regarder ce qui se passe du côté de Versailles, mais plutôt d'Istanbul ou d'Ankara, pour voir concrètement ce que la diplomatie ukrainienne est prête à lâcher pour un éventuel cessez-le-feu.
Il va tout regarder, je pense. Non?
Non, parce qu'il sait que c'est pas à Versailles qu'il faut regarder réellement, c'est plutôt du côté de Washington. Parce que ce qui est vicieux dans cette guerre, dans cette attaque de la Russie face à l'Ukraine, c'est qu'on n'est pas une guerre face à deux pays réels, quoi. C'est pas l'Ukraine qui est réellement visée derrière tout ça.
Alors, tu disais tout à l'heure justement Versailles, je vais répéter quand même pour la petite histoire, c'est un lieu historique chargé d'histoire, parce que évidemment, je vais pas refaire tout ce qui s'est déroulé, mais surtout, c'est qu'on retiendra qu'il y a eu un acte qui a été signé il y a 103 ans, un traité de paix déterminant l'Europe du 20e siècle. Abdeslam Itach.
Non, mais Adil, le président de la République est dubitatif sur un possible cessez-le-feu et il a plus que raison. De la même manière où personne n'était sûr de la possible invasion de l'Ukraine par les Russes. Vous voyez, il y a quand même une part d'imprévisibilité de la part de Vladimir Poutine. Mais j'entends aussi qu'on s'indigne et évidemment on ne doit pas toucher aux civils et c'est bien ça la partie crasse de la guerre lorsque les civils sont touchés, mais ils sont aussi touchés partout dans le monde. Et je tiens à rappeler qu'à Gaza il y a des hôpitaux qui ont été bombardés et manifestement ça n'a pas l'air d'indigner. Donc vous voyez, moi ce qui me gêne c'est le deux poids deux mesures, mais je condamne complètement le fait d'attaquer, de bombarder un établissement où il y a du public, et je pense à l'Ukraine en disant ça, mais aussi à toutes les parties du monde. Voilà, ça c'est. Ensuite, sur Versailles, c'est plein de symboles, mais Versailles, c'est aussi l'endroit où le président de la République réunit les parlementaires. Vous savez que pendant l'exercice, il ne lui est pas autorisé de pénétrer le Sénat et l'Assemblée nationale par séparation de l'exécutif et du législatif. Donc, moi, ça ne me choque pas. Ensuite, qu'ils réunissent toute l'Europe, oui. Il est président tournant de l'Union européenne. Si ce n'est pas lui, qui doit le faire? Donc, non, moi, j'ai aucune gêne avec ça. Ensuite, pêle-mêle, concernant les Américains, moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est qu'on se retrouve... ils font une guerre par procuration, puisque...
par procuration.
Joe Biden refuse de discuter avec Vladimir Poutine. Donc, il laisse les Européens se mettre en avant. Et en effet, sur cette réunion... qui a lieu en Turquie entre des diplomates ukrainiens et russes, Vladimir Poutine sera quand même beaucoup plus regardant vis-à-vis de cette rencontre que celle de l'Union européenne qu'il veut garder bien loin, très loin, un petit peu à la même distance que la table qui le séparait d'Emmanuel Macron le jour où il l'a rencontré. Donc vous voyez, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est aussi ces Américains qui ne sont pas là, mais qui cherchent à tirer quand même un petit peu les ficelles. Et cette OTAN qui dessert les Européens.
Les Américains, c'est vraiment les ficelles.
Ils sont aussi en partie responsables.
En même temps, l'OTAN, c'est une arme.
Alors attendez, vous parlez les deux en même temps.
Historiquement, l'OTAN, c'est une arme américaine. Quand on voit les positionnements de l'armement de l'OTAN depuis ces 40 dernières années, on voit que l'Amérique a fait en sorte d'encercler la Russie sous des prétextes bidons de protection d'un éventuel retour de la Grande Russie ou de l'URSS. Et l'Ukraine, malheureusement, a payé le prix fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le vrai conflit, c'est plutôt un conflit Est-Ouest. Et ce qui est malheureux, c'est que l'Europe, encore une fois, elle est l'outil des Américains dans ce conflit.
Moi, je pense qu'il faut faire attention.
Redis, vas-y. Pourquoi il faut faire attention?
Écoutez, lorsqu'on revient sur la guerre froide, puisqu'en fait, quelque part, c'est un petit peu le remake d'une guerre froide. Faut quand même tenir compte que la guerre froide, c'est pas uniquement des oppositions entre un bloc et un autre. C'est une opposition entre une culture, entre une façon de concevoir l'économie mondiale. Et je suis désolé, le capitalisme a beau avoir des torts, le capitalisme a beau être un régime économique qui n'est pas souvent conscientisé, mais le communisme en l'état était quand même beaucoup plus pire. Ok. Bien entendu, ça a fourni des arguments politiques à des pays tels que les pays africains, subsahariens, au travers du syndicalisme pour trouver la force de lutter contre l'impérialisme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, on se retrouve quand même sur une configuration où, lorsque l'on regarde la Russie n'est pas un pays excessivement riche. Elle a un PIB qui n'est pas trop élevé. Celui de l'Espagne, on se rapproche même de celui du Brésil, me semble-t-il.
Le plus proche en Europe, c'est l'Espagne.
C'est ça. Et donc, du coup, c'est un pays qui, quelque part, vit encore dans sa résurgence, en fait, du communisme. Vous savez, c'est comme des strates, en fait, hein. Tout est établi à l'avance, jusque dans les denrées alimentaires, le salariat, etc. Et donc, quelque part, on assiste un petit peu comme dans les sociétés indiennes, en fait, à une caste de personnes qui sont très riches et une caste de personnes qui est très pauvre. Je dis pas que ça n'existe pas dans le monde occidental, vu que le capitalisme, notamment aux États-Unis, crée une disparité extraordinaire entre les riches et les pauvres. Mais ce que je dirais, c'est que là, il y a dans le capitalisme, il y a un déterminisme personnel, alors que dans le communisme, c'est l'inverse. Donc moi, même si c'est vrai que les Américains jouent d'impérialisme depuis des décennies, en tout cas depuis que l'Europe est rentrée dans la Première Guerre mondiale, ils ont profité.
Ils jouent tellement que si tu veux faire vraiment une comparaison, parce que moi je ne suis pas l'un ou l'autre.
Je termine là-dessus et puis.
Résultat, les Américains, capitalisme ou pas, en termes de vie humaine.
C'est compliqué.
En termes de déstabilisation géopolitique.
Je suis d'accord.
Je crois qu'ils ont bien plus à se reprocher que la Russie.
Mais à ce moment-là, les Russes aussi jouent ce jeu-là.
Sauf qu'en fait, ils le jouent
dans un espace qui est beaucoup moins maîtrisé parce qu'en fait, les Américains étaient plus forts avant. Je veux dire, à un moment donné, la Russie, c'était le tiers-monde. Mmh. Et donc, du coup, la Russie a résurgé sur la fin de l'Allemagne, ok? Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a eu une Russie aussi forte. Mais quand même, faut se rappeler que c'est des belligérances. Je veux dire, c'est la loi du plus fort. Donc il n'y a pas de méchant ou de gentil là-dedans en réalité.
Et on continue d'en parler, messieurs. Justement, La 19h14, la première pause pub, c'est maintenant. Ensuite, je voudrais entendre nos auditeurs 01 53 48 3000 intervenir et commenter l'actualité avec nous, justement. Et on revient avec les débatteurs influenceurs qui sont avec nous sur le plateau pour continuer de commenter cette guerre en Ukraine, mais également aussi les deux autres sujets. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et les informés, il est 19h21 précisément, ici même, dans direct sur Beurre FM, les informés avec Abdeslam Itach, les informés avec Rudy Kazi. Et enfin, les informés, c'est avec Nadir, Kaya, Jingle, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On vous donne la parole, vous le savez, vous intervenez quand vous voulez, ici même. Ici même en direct, 01 53 48 3000, pour commenter l'actualité avec nous. Est-ce que les images, effectivement, qu'on voit tous hein, à la télévision, concernant le bombardement de la maternité, comment vous réagissez, effectivement? Parce que on a parfois le sentiment que la guerre, elle prend une autre tournure. Nadir Kaya.
Ah, bon, après, moi, si je peux me permettre, bien évidemment, dès l'instant où il y a des civils qui sont touchés, c'est toujours triste et inacceptable. Mais comme disait Abdelsalem très justement, moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est ce deux poids, deux mesures, quoi. Quand on regarde historiquement tous les pays qui sont déstabilisés, qui sont envahis, qui sont détruits pour des raisons souvent honteuses au regard des instances internationales, bah c'est sûr qu'aujourd'hui, moi je suis déçu qu'aujourd'hui la France, un pays comme la France, soit capable de voir les Ukrainiens, les réfugiés ukrainiens, comme des réfugiés, entre guillemets, privilégiés, pour faire des maraudes tous les dimanches.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
On fait des maraudes avec l'association depuis des années, donc on a souvent maintenant, ça fait plus de 12 ans qu'on fait ça. Au début, on avait essentiellement des SDF ou des Français qui étaient à la rue. Et depuis maintenant 7-8 ans, on a exclusivement des réfugiés du monde entier, qui sont souvent des Syriens ou des Africains. Et ça, c'est des réalités qui sont tragiques, parce que quand on voit comment la France les traite, et je dis merci vraiment à tous ces bénévoles et tous ces Français qui viennent en aide à ces gens-là. Mais concrètement, quand on voit l'Europe, les autorités européennes, les autorités françaises, comment elles traitent ces réfugiés-là, et ce qu'on voit depuis maintenant une dizaine de jours, tant mieux pour les Ukrainiens, je le dis, hein, ça reste des femmes et des hommes qu'il faut savoir accueillir, qu'il faut savoir sauver, parce que c'est les valeurs françaises. Mais les valeurs françaises, elles doivent pas subir le deux poids deux mesures et l'hypocrisie de nos politiciens.
Vous avez raison, voilà. Effectivement.
Donc on a rappelé la Palestine, on peut rappeler le Yémen qui a été encore bombardé dernièrement par l'aviation saoudienne avec l'appui de l'armée américaine, mais aussi avec les armes françaises. Donc ces réalités-là, il faudrait les mettre une fois pour toutes sur la table, de la même façon, et les traiter de la même façon. Tout simplement.
Rudy Kazi, vous partagez ça, effectivement, parce que là, il pointe du doigt un élément que beaucoup pensent, d'ailleurs.
Le deux poids, deux mesures.
Bah oui, on en parle. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, on parle que de ça.
Bah évidemment.
C'est allusion justement n'importe quoi.
À la Palestine, au bombardement des écoles, des hôpitaux, qui étaient tués régulièrement.
Non, mais évidemment, il y a là-dessus, faut être dans l'équité, en fait. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de la notion de vérité, etc. Pour moi, si le droit international touche de près ce qui est la vérité, au sens où on doit défendre les pays pour pouvoir défendre les populations, pour éviter qu'elles ne tombent dans des conflits d'expansionnisme, de ce genre de choses, eh ben c'est bien pour les populations qu'il faut éviter que l'on tombe dans des escalades. Et effectivement, ça doit concerner. Puisque le droit est international, ça doit concerner tous les États. Et on a parlé de la Palestine, mais on pourrait aussi parler de ce qui se passe au Congo depuis maintenant une vingtaine d'années. Je parle de la RDC, où là, je dirais encore, la Palestine bénéficie d'une couverture médiatique, malgré ce qui s'y passe de grave. Ouais, ouais. Mais le Congo, il n'y a strictement rien. Il a fallu attendre qu'il y ait un prix Nobel de la paix pour qu'on en parle et pour qu'il y ait un début de conscience par rapport aux téléphones portables et ordinateurs bénéficiant d'une batterie au lithium créée par le coltan, dont 60% se trouve dans les réserves au Congo, des réserves mondiales se trouvent au Congo, et dont je crois 30% se trouve en Afghanistan. 3 points de suspension. Donc à un moment donné, le deux poids deux mesures, il existe malheureusement peut-être un petit peu partout et un petit peu trop à mon goût, et que nos élans d'humanisme ne doivent pas figurer uniquement sur les frontons des bonnes intentions et les frontons des mairies et aussi des tribunaux à un
les
moment donné.
Les éditeurs ont la parole. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je ne vous ai pas oublié, Abdeslamitash. Mais non. Je vais juste écouter Fatima de Paris. Bonsoir, Fatima de Paris. Ensuite, j'entends. On va distribuer la parole à Abdeslam, notamment. Fatima, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous. On vous écoute.
Merci beaucoup. Alors, c'était pour ce qu'il a dit à l'instant de votre invité.
Oui.
L'Arabie Saoudite, elle n'a pas bombardé le Yémen. Elle a bombardé les Houthis. Je ne sais pas comment on les appelle en français.
Allez.
Si ils font partie de l'Iran. C'est l'Iran qui est c'est là pour déstabiliser les pays arabes.
Ils sont où physiquement? Les bombardements, ils ont eu lieu où?
Pardon?
Les bombardements, ils ont eu lieu où exactement?
C'est-à-dire qu'Aya vous pose la question.
Au-delà de savoir qui a été touché.
Ils ont bombardé les Houthis. Les Houthis, c'est l'Iran qui est derrière les Houthis pour déstabiliser.
Non, mais ils sont où physiquement, les bombardements? Les bombardements ont eu lieu.
Mais vous dites, les bombardements se déroulent où précisément? Dans quel pays? Nadir Kaya vous pose la question.
Oui, les bombardements, elles sont précises. Oui. Elles sont ciblées, les Houthis.
Mais ça reste au Yémen, on est au Yémen.
Oui, mais au Yémen, l'Arabie Saoudite, elle s'occupe très bien de.
Donc l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen.
Elle s'occupe très bien de Yémen. Il y a beaucoup de Yéménites qui travaillent à l'Arabie Saoudite.
Il y a 200 000 morts, quand même, depuis quelques années, au Yémen. 200 000. 200 000 morts au Yémen.
Ah,
mais peu importe.
Les Houthis.
Non, mais on a bien compris, Fatima, on a bien compris, effectivement. On a bien saisi, ma chère Fatima. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet de. Oui. Merci, Fatima, pour votre intervention. Merci infiniment. 01 53 48 3000. Mais effectivement, il a raison de dire qu'Aya, ça se déroule au Yémen, qui a provoqué, évidemment, des milliers de centaines de morts. Abdeslam Itach, avant de passer au second sujet.
Oui, non, juste pour rebondir sur les propos de mes co-débatteurs, sur le deux poids, deux mesures, évidemment. Quelques points d'histoire concernant le droit de veto. Aujourd'hui, on entend l'opinion internationale s'indigner du droit de veto de la Russie concernant les résolutions qui la concerneraient. Mais allons, souvenons-nous aussi qu'il y a eu énormément de résolutions qui ont été bloquées par les États-Unis visant à condamner Israël concernant ses attitudes. Vous voyez, et il y a du deux poids deux mesures. Je vais vous donner un dernier deux poids deux mesures où un manque de respect des résolutions de l'ONU. Lorsque l'on a Colin Powell qui se présente à l'ONU avec une fiole prétendant que c'était des armes de destruction massive, un produit neurotoxique et qui semblerait être en Irak, la France a eu le courage par le biais de Dominique de Villepin, qui est un homme admirable, qui a expliqué que la France n'irait pas sur un mensonge, mais c'est un mensonge.
Non, tu disais admirable, moi j'ai pas oublié les émeutes 2005, le couvre-feu, sur le plan diplomatique, effectivement,
c'est la nuance dont on parlait tout à l'heure.
On pourra faire une autre émission sur ce sujet.
Messieurs, je continue. Allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Et donc, les États-Unis n'ont pas respecté justement ce veto-là et sont partis envahir l'Irak sans le consentement de l'ONU.
Allez, tout de suite, direction le standard 01 53 48 3000. Lania de Cergy. Bonsoir, Lania.
Bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute, ma chère Lania. Alors, sur le deux poids, deux mesures.
Merci. Au fait, moi, tout simplement, je réponds à la personne qui vient d'appeler pour l'Arabie Saoudite.
Oui.
Je suis sur le chemin pour aller en Mongolie et j'étais choquée.
Oui.
Parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ils bombardent des civils.
Oui.
Il n'y a pas de guerre qui est ciblée. Ça n'existe pas. Oui. Alors. Cette personne, elle ne regarde pas les infos, elle ne voit pas que des enfants, ils meurent de faim au Yémen.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle raconte, là?
Et peu importe leur ethnie.
On s'en fout. Oui, on s'en fout qu'ils soient sunnites. Je suis sunnite. Mais je n'ai rien à voir avec le sunnite ou l'audite ou n'importe quoi.
Absolument.
Chrétien ou juif ou quelque chose. C'est un être humain, c'est des enfants.
Vous avez raison.
Et quoi, je... voilà.
En tout cas, merci de le rappeler, Elania, effectivement.
Je vous en prie.
Merci à vous, merci pour votre intervention.
C'est vrai que son positionnement
est étonnant. On va tout de suite accueillir le coin neuf, le coin neuf de Pascal Boniface. Mais juste, j'ai peut-être le temps de prendre un auditeur. Oui, Amadou de Grenoble. Bonsoir, Amadou.
Allô, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, mon cher Amadou de Grenoble.
Bonjour, avant d'éviter, effectivement, sur ce côté-là, moi, je ne choisis pas un pays. Les dirigeants, les élites du gouvernement, ce n'est pas le peuple. Oui. Parce que, de toutes les manières, c'est des tyrans tyranniques, despotiques. C'est pas Poutine, c'est pas Poutine.
Ah oui, tyrannique, ah oui.
C'est le peuple qui meurt. Ça même pas la souffrance des autres. Ce n'est pas une question de qui.
C'est vrai,
l'argent qui a remplacé l'humanité. On te considère comme un humain, celui qui est pauvre, le pauvre il n'a jamais eu raison.
Amadou, vous avez pointé du doigt effectivement les choses qui sont fondamentales, et c'est vrai, vous avez raison. L'argent, effectivement, qui parfois fait la puissance. Merci, Amadou, pour ce rappel. Tout de suite, 19h31, avec une minute de retard, le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Le Quad 9, c'est avec le patron de l'ERIS, comme chaque jeudi. C'est avec Pascal Boniface, le brillantissime Pascal. Bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va, mon cher Pascal?
Bah, bien. Enfin, bien, moins bien quand on regarde l'actualité internationale, et encore moins bien aussi quand on voit le tas du match d'hier. Mais enfin, bon.
Le match d'hier, j'ai pensé à vous, je vous promets, et je me suis dit, quelle déception, hein, quel match,
remuez pas le couteau dans
quel match pourri quand même, hein, Pascal, non?
Ah, clairement,
effectivement. Alors suivez, c'est à suivre, justement, les commentaires chez Bilan Nedman de 20h à 21h. Crime de guerre en Ukraine, et pourquoi on est plus sensible qu'ailleurs, c'est votre billet d'humeur, on vous écoute.
Voilà, il y a des bombardements russes en Ukraine qui peuvent être assimilés à des crimes de guerre. C'est quoi un crime de guerre? C'est quand, dans une guerre, on bombarde des civils et non pas des installations militaires, quand on détruit volontairement des infrastructures civiles sans but de guerre réelle, et quand on bombarde une montagne sur l'interdité, comme ça a été fait, c'est un crime de guerre, ou quand on torture ou qu'on maltraite volontairement des êtres humains ou des prisonniers. Et donc oui, effectivement, la Russie commet, en bombardant des civils, commet des crimes de guerre, et il faut les condamner très fortement et ne pas accepter cela. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a moi un argument qui me gêne un peu, c'est de dire comment peut-on accepter des crimes de guerre à 2 ou 3 heures d'avion de Paris?
Oui.
Comme s'ils étaient plus acceptables s'ils se déroulaient un peu plus loin. Et effectivement, ils nous effraient moins. Il faut bien reconnaître qu'il y a une contradiction entre notre volonté de dire qu'il faut défendre des valeurs universelles et le faire surtout quand c'est à côté de chez nous, et qu'on le fait un peu moins bien quand c'est plus loin. Et pourtant, dans d'autres régions, il y a des bombardements de population civile sur lequel on proteste nettement moins. Donc il faut effectivement aider les réfugiés ukrainiens, et on peut se féliciter d'un élan collectif pour les aider, mais il faut se rappeler que pour d'autres réfugiés, il y a eu moins d'élan de solidarité pour des questions très nettement de religion et couleur de peau. Et donc là, une fois encore, qu'on ne vienne pas parler de valeurs universelles, si c'est cela. Les valeurs universelles, elles sont justement universelles, elles ne sont pas sélectives. Et donc il faut se méfier des gens qui ont un peu la morale à géométrie variable. Donc oui, il faut, et par contre, il ne faut pas dire, comme ça se passe ailleurs, ne condamnons pas les bombardements russes, et comme certains le font. Moi, il y a des gens qui me traitent maintenant d'agent de l'OTAN parce que je condamne les bombardements russes, et d'autres qui m'ont, pendant très longtemps, traité d'agent russe. Donc je connais un peu ce type d'accusation. Bah, donc la seule réponse, c'est la cohérence. Les bombardements de populations civiles sont inadmissibles, quel que soit le pays qui les fasse, et quelle que soit la population qui les reçoive. Et si on fait ça, eh bien, on est cohérent intellectuellement. Si on dit que dans certaines circonstances, on peut les accepter, et que dans d'autres circonstances, il faut les condamner, on n'est pas cohérent, et on n'est pas pour des valeurs universelles.
Merci pour ce billet d'humeur. Bravo, mon cher Pascal Boniface. Une petite question avant de vous laisser partir. Emmanuel Macron se dit qu'il est pessimiste. Il ne croit plus du tout à ce cessez-le-feu réaliste. Quelle est votre analyse? Finalement, cette guerre en Ukraine, comment va-t-elle tourner? Quelle tournure va-t-elle prendre, mon cher Pascal Boniface?
Ben, elle risque effectivement de s'intensifier, puisque Poutine échoue dans ses buts de guerre. Il pensait à une victoire militaire facile, ce n'est pas le cas. Et on peut craindre que, si son armée avance plus difficilement, les civils soient les premières victimes, et qu'il y ait de plus en plus de victimes civiles dans ce conflit.
Merci pour cet éclairage, mon cher Pascal Boniface. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre billet d'humeur. Merci à vous, bonne soirée.
Bonne soirée, merci Adil.
Jeudi, sans faute, 19h35, on marque la seconde pub, dernière pub d'ailleurs, avant la dernière ligne droite avec Nadir Kaya, avec Rudy Kazi, avec Abdeslam Itache. Et là, vous savez quoi ? Je veux qu'on parle, vous savez, de cette mise en pause de la campagne présidentielle. Évidemment, guerre en Ukraine oblige, mais la campagne présidentielle, elle est complètement bouleversée, messieurs. Mais je voudrais quand même qu'on parle, je voudrais faire un focus plus particulier sur ces 103 maires d'Île-de-France qui ont interpellé tous les candidats à la présidentielle. Mais surtout, ces oubliés, les quartiers populaires, toujours les mêmes, 40 ans après. Messieurs, on va en parler. Pause, pub, et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
C'est la dernière ligne droite, messieurs. Justement, nous continuons de parler de ces élections. La campagne présidentielle, je ne vous l'apprends pas, elle est complètement bouleversée par la guerre en Ukraine. Et en attendant, il y a encore d'autres oubliés. Ce n'est pas la campagne, c'est les quartiers populaires, messieurs. Les quartiers populaires, alors, c'est même plus les oubliés. Certains disent d'ailleurs qu'il n'y a plus de doute. D'autres disent qu'il n'y a plus d'espoir. C'est des propos recueillis justement dans les quartiers populaires. Pire encore, ils disent que les quartiers populaires peinent à exister dans cette campagne. Jusqu'à quand ? Faisons un tour de table. Messieurs, qui veut prendre la parole ? Là, ça devient... Alors, autant il y a des sujets qui préoccupent, mais là, les habitants des quartiers populaires n'y croient plus du tout. Je vous le dis clairement. Par exemple, je vais prendre un propos d'un quartier populaire. Il dit qu'il n'y croit plus du tout à la politique ni aux politiciens. Finito ! Monsieur le président de Banlieue Plus et Quartier.
C'est compliqué parce que politiquement, il y a des choses en termes d'enjeux qui se passent pour les quartiers populaires d'un point de vue local. C'est-à-dire au niveau des municipales, effectivement, on peut faire des choses. Après, sur la campagne présidentielle, c'est plus compliqué. Parce que là, on passe dans une division supérieure et on n'a jamais eu réellement de candidats qui étaient issus des quartiers populaires et qui était à l'image de toute la complexité des quartiers populaires. On peut avoir, comme on a eu, je crois, Anas, qui était issu des quartiers populaires, qui est syndicaliste. Il y a aussi Poutou, tous ces gens de gauche qui sont quand même socialement proches des quartiers populaires, mais c'est plus compliqué que ça. On n'a jamais réussi à faire émerger une ou des personnes qui soient à l'image des quartiers populaires et qui sont restées telles qu'ils étaient. On a souvent eu, ou les partis politiques ont souvent intégré des gens qui étaient issus des quartiers populaires, et en fin de compte, ils les ont tellement bien intégrés qu'en fin de compte, ces gens-là n'ont jamais réussi à faire à défendre notre cause.
C'est de pire en pire. Vous connaissez, c'est pas à vous que je vais
mais
apprendre.
Mais de pire en pire, pourquoi
c'est 40 ans après, de non, pire, non, mais de pire en pire. C'est-à-dire, vous savez quoi
faut à qui il moi, je parle de toujours pareil, c'est la responsabilité partagée.
Oui, je suis d'accord. Responsabilité partagée.
Il ne faut pas tout attendre des politiciens. On a eu l'habitude, on parle de mais paternalisme de gauche dans les quartiers, parce qu'historiquement, on a eu affaire beaucoup à la gauche. C'est elle qui nous a aussi mis dans cette situation. La droite a fait aussi un travail de sable sur la fin, mais historiquement, la base, c'est la gauche. La gauche, avec Mitterrand, la manipulation, la travestisation de la marche pour l'égalité et la justice qui est devenue la marche des beurs.
Je me demande même si c'est les grands frères, les populaires vont peser dans cette campagne présidentielle. C'est vraiment la question.
Non, mais ils pèseront pas.
Les candidats, les différents candidats ne calculent absolument pas les quartiers populaires.
Moi, le premier, j'en rêve.
Alors, attendez, je vais juste
accueillir. Moi, j'en rêve.
Vous en rêvez. Je vais, attendez, Boula, attendez, on va allumer votre micro. Vous êtes intervenant, débatteur auprès de Bilal Lehmann. Je vous accueille exceptionnellement parce que je sais, Boula, bonjour, d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous voulez dire quand on parle de cette campagne et des quartiers populaires et des oubliés oui, c'est vrai, mais bon,
je comprends,
on en a parlé.
Et quand il cible la gauche,
vous avez raison, Rudy.
C'est notre génération. Moi, je suis né en 63, je vois comment que ça s'est passé au niveau de la gestion de la gauche par rapport à cette jeunesse.
Un massacre.
Oui, il y a eu vraiment un massacre. Et après que Mitterrand nous mette un mec comme, perd son âme, il était plus football que ministre. Bernard Tapie, à l'époque, il nous l'avait mis un peu en banlieue pour essayer, à travers le football, d'essayer de nous racoler par rapport à ça. Mais je pense que la jeunesse de la région parisienne avait besoin d'autre chose.
Mais pourquoi aujourd'hui là, j'ai dit tout à l'heure, il est bon de rappeler l'histoire des quartiers populaires. Aujourd'hui, clairement, les habitants des quartiers populaires ne croient plus en la politique, messieurs.
Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est oui, que voilà. Quand tu regardes, là, je vais peut-être changer de sujet, mais quand tu vois hier le match Real Paris, c'est deux mecs de la région parisienne, c'est un gars qu'on a mis tricard pendant 5 ans, Benzema, 3 buts, qui a retrouvé l'équipe de France et que politiquement, on lui a fait un petit peu de mal. Aujourd'hui, ils s'en ont aperçu qu'à un moment donné, fallait le réintégrer parce que l'image de la banlieue.
Ça compte, ça.
Eh bien, bien sûr, c'est des petits détails, c'est des petits détails politiques. Quand il dit, ouais, il n'y a pas que la politique. Mais si, je dirais plus, parce que la politique d'un pays, c'est qui gère ce phénomène.
Tort, il n'a pas tort.
Et c'est qui gère ce phénomène.
Non, mais il n'a pas tort. Vous savez pourquoi l'image d'une personnalité comme Benzema, qui est issue des quartiers populaires.
Tu veux dire quelque chose
Bien sûr, vous allez faire un tour de table.
Moi, je voulais finir.
Le temps presse quand même.
Moi, je veux finir une chose parce que.
Vous inquiétez pas, je suis là pour.
Les quartiers populaires dans leur ensemble.
Je suis l'horloge.
Les quartiers populaires dans leur ensemble. Sont complètement comme
je
les
vous
Français.
Sens inquiet.
Les quartiers populaires dans leur ensemble sont comme les Français. Ils parlent beaucoup, mais quand il faut agir, il n'y a plus personne. Pourquoi je dis ça? Parce que je fais partie d'un réseau associatif de militants qui agit depuis toujours dans les quartiers populaires. Et je vous le dis, politiquement, bien sûr qu'on peut réussir. Je vous ai donné un exemple, c'est d'un point de vue municipal. On a réussi à faire des listes citoyennes, on a réussi à prendre des mairies ou à participer au pouvoir localement. Donc ça, on sait faire. Donc les habitants des quartiers populaires, soit ils le savent pas, soit ils ont une mémoire très courte. Donc et ils ont pris pour certains l'habitude de tout attendre des politiques. Donc aujourd'hui,
Non mais je finis. Les politiques à tour de rôle,
tout attendre des politiques. Voilà, c'est ce qu'on dit à l'instant.
Font des promesses.
Aujourd'hui, sur l'élection présidentielle, on ne pourra rien avoir pour les quartiers populaires. On a fait des doléances, beaucoup ont fait la mendicité pendant des années pour obtenir des choses, on ne l'a pas. Localement, on peut le faire sur les municipales, parce que là, il y a un vrai travail de terrain. Mais au niveau des présidentielles, il n'y a personne qui nous représente, parce qu'on a tout fait pour que personne ne nous représente. Et je donnais l'exemple d'Anas pour... C'est toujours politique.
Voilà, bon,
c'est toujours politique, bien évidemment. Disait, ouais. Mais à un moment donné, c'est une question de responsabilité partagée.
Eh ben justement,
non, mais quand tu dis responsabilité partagée, voilà, aujourd'hui, le chef d'orchestre d'une éducation et des valeurs.
J'aimerais bien dire un mot quand même.
Excuse-moi, désolé.
Rédi, quasi.
Non, mais je suis toujours coupé. Je m'en plains souvent à Adil d'ailleurs.
Ça fait très longtemps.
Il y a un complot.
Adil, je voudrais bien l'écouter.
Je suis contre parce que ça fait très, très, très longtemps. Que ça ne s'est pas produit.
Donc vous reconnaissez qu'il y a eu.
Ça date il y a un an, cher ami.
Mais il a fallu que je m'adapte. Donc si on m'a coupé, c'est peut-être pour ça.
Arrêtez.
C'est la loi de la jungle parfois.
Voilà le problème de la banlieue, c'est la victimisation.
Non, allez-y, parce que vous reconnaissez que c'était le cas. Bref.
Allez-y, Rudy.
Ce que j'aimerais juste dire par rapport à ça, c'est que effectivement, le constat qui est fait par Nadir est réel sur cette situation. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais surtout parler en fait l'autodétermination des quartiers. Aujourd'hui, vous voyez qu'en fait, les personnes dont on prend en compte, naturellement, je parle de groupes sociaux, ce sont les personnes qui sont capables de s'autodéterminer, qui sont capables de faire basculer un vote, qui sont capables, qui sont capables de faire basculer un vote. Des groupes sociaux sur lesquels on se sent obligé d'intervenir parce qu'on a besoin de leur vote. Aujourd'hui, que pèse le vote des quartiers dans les différentes élections, que ce soit à l'élection présidentielle? Bon, je vous l'accorde qu'en 2017, il y a eu un petit coup de boost parce qu'Emmanuel Macron,
Hollande en a bénéficié.
Macron aussi en partie. Mais il en a bénéficié parce qu'il fallait entre guillemets sortir Sarkozy et Emmanuel Macron on a bénéficié parce qu'il avait réussi à attirer quand même pas mal de leaders des quartiers.
Absolument.
Exactement, la jeunesse, etc.
Et bref, il avait fait une grosse.
Donc effectivement, la question des promesses qui sont non tenues, mais elles sont liées aussi à des réalités qui tiennent aux quartiers. Je dire, les quartiers, c'est quand même l'amoncellement de populations venues d'ailleurs, en grande majorité, qui ont connu un déclassement depuis par exemple le choc pétrolier, où ces populations n'ont pas réussi à obtenir en fait l'émancipation sociale. Contrairement à d'autres populations d'origine latine, qui elles en fait subissaient en plus de fait un racisme qui existait, qui s'est certainement déporté un peu plus vers ces populations. Donc double peine, un déclassement social du point de vue à cause des différentes crises qui existaient, et en plus une discrimination territoriale et raciale qui n'aide pas à sortir de des quartiers. On a des études qui le prouvent. Lorsqu'on a un nom d'origine africaine, maghrébine ou autre, qui n'est pas entre guillemets répertorié comme étant du lexique des noms français, c'est plus difficile.
Donc,
quand
je vous
ai
parlé, il y a deux sociétés. Il y a la société française et les quartiers populaires.
Et de trouver un emploi. Mais à partir du moment. Et à partir
de la même chose.
Et
quand même,
j'ai vraiment dit d'une phrase. Pardon, j'ai vraiment dit d'une phrase.
C'est vrai, parce qu'on n'a pas entendu Abdeslam Itache.
Et j'ai vraiment dit d'une phrase. Et à partir du moment où les quartiers, en tout cas les habitants des quartiers, sont au courant de cette situation, mais qu'est-ce qui est fait dans les quartiers pour, au travers de cette prise de conscience, s'auto-déterminer, c'est-à-dire constituer une force au travers de laquelle les politiques seront obligés de s'y plier? Les élections municipales, comment ça se passe.
C'est
à partir du moment où un candidat,
on l'a pas entendu.
Vraiment, je termine. À partir du moment où un candidat pour l'élection municipale se rend compte que les quartiers sont capables de faire basculer un vote, je peux vous dire qu'ils vont dans les quartiers pour se faire entendre et en retour, ils sont obligés de travailler pour les. Et c'est un rapport de force, mais qui est constitué par le fait d'un groupement qui est capable de faire basculer un vote.
Abdeslam Itache, ensuite je reviens vers vous. Abdeslam Itache,
dynamique citoyenne.
Abdeslam Itache, allez-y.
Alors,
il nous reste 3 minutes avant de rendre l'antenne.
Évoqué dans les programmes des différents candidats, c'est parce qu'ils ne votent pas. Faut bien se rendre à l'évidence.
L'abstention.
Et c'est bien là le problème.
C'est là où le bas blesse.
Ça veut dire que plutôt que de surfer sur la vague, il faut créer la vague. Il faut absolument que les gens puissent s'approprier la vie de la cité, et cité dans le sens grec, et qu'ils puissent justement passer aux affaires, s'occuper des collectivités, prendre des responsabilités. Et vous voyez, il y a un vrai problème. Ensuite, sur l'ascension sociale, le problème, vous le connaissez, lorsque une personne réussit de par ses études et qu'elle a cette promotion sociale, lorsqu'elle quitte le quartier, qui la remplace? Une personne beaucoup plus en difficulté. Il est bien là le problème. Et vous avez très peu de personnes qui se retournent vers les quartiers en se disant j'ai peut-être ma part à apporter, et lorsqu'ils le quittent, ils le quittent pour de bon. Et c'est Oula. Il est bien là le drame.
Mais
le pouvoir,
la responsabilité aussi des gens de quartier, les rappeurs, etc.
Après, quand tu regardes, quand on parle de municipal, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, quand tu regardes les municipales, quoi qu'il arrive, ils arrivent à se mettre d'accord entre les cocos, les socialistes, ils arrivent toujours à se mettre d'accord pour se rassembler, pour que la ville passe à... Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a un vrai projet.
Des gens dans les quartiers qui sont
je vais vous dire.
Hein? Non, mais il y a aussi un gros problème de clientélisme. Il y a aussi un gros problème de clientélisme aussi qui fait que les quartiers se font flouer depuis des années.
Mais aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut savoir.
Mais quand vous avez des quartiers, quand vous avez des gens dans les quartiers qu'on est capable de rincer pour qu'ils puissent voter d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ça casse la dynamique.
Aujourd'hui, l'UDI, la droite, ils ont pris des quartiers, ils ont pris des mairies. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une absence politique.
Parce qu'on leur a menti aussi. Parce qu'on leur a menti aussi pendant des années.
On leur a menti. Mais il y a un truc qu'il faut savoir. On l'a éveillé quand même. On n'est pas né de la dernière pluie. On c'est vrai quand ils nous parlent de.
Mais tout le monde fait du clientélisme.
Attends, moi j'ai connu le Parti communiste où il y avait des valeurs, des règles. Du Parti communiste, on a atterri chez les socialistes. Mais aujourd'hui, les socialistes, ça a été un désastre, les quartiers de banlieue. Mitterrand, pour moi, il a fait très très mal à la banlieue. Il a surpeuplé les banlieues.
C'était un désastre aussi. Hein.
Comment?
Les communistes aussi, ça a été un désastre.
Non, mais une fois qu'on a dit ça.
Quoi qu'il arrive, mais ils ont donné le témoin aux socialistes.
Je voudrais entendre Nadir Kaya, s'il vous plaît. 30 secondes, Nadir Kaya.
Parlons proposition,
Nadir. S'il vous plaît.
C'est très simple. La solution, on a parlé de responsabilité partagée, c'est de se prendre en main. On a parlé d'action citoyenne, c'est aussi simple que ça. Voilà. On est dans un pays quand même extraordinaire. Il y a du racisme, on va pas revenir sur le passé. Aujourd'hui, celui qui veut faire, il a qu'à faire. C'est aussi simple que ça. On a suffisamment de compétences dans le quartier depuis 30 ans. Ouais. C'était pas le cas il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a des compétences dans tous les domaines.
Quartier,
Donc maintenant, il faut se prendre en main, il faut arrêter de pleurnicher.
C'est ça.
Il faut taper fort.
Il y a les jeunes de quartier, moi je leur dis, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut que vous brandissiez votre bulletin de vote. Et à partir de ce moment-là, je peux vous dire que là. Non mais.
Allez voter. Ça, la démocratie, c'est voter, mais c'est surtout vivre au quotidien.
Après, je parle de la situation où les candidats sont obligés d'aller vers les quartiers parce qu'ils savent qu'ils pourront voter pour eux. Et c'est là qu'il y a un échange et qu'il y a des compromis.
Quand tu vois un mec comme Caïs et Bouba, quand tu les vois,
c'est
terminé, Boula.
Bonsoir, Bilal, quel est le programme qui nous attend de 20h à 21h? Allez-y.
Le programme. On va revenir sur le Real Madrid avec Karim Benzema et aussi sur le fiasco du Paris Saint-Germain, malheureusement.
À suivre. 20h, 21h avec Bilal Nedman et son équipe. Bilou, vous restez là?
Oui, Boula.
Boula, vous restez avec Bilal. Merci, messieurs. Vous savez ce que je vais faire, messieurs? Je vais organiser 1h30 d'émission consacrée au quartier populaire et cette campagne. Voilà. Non, mais bientôt. Attendez, la radio a quand même le soin. Merci à Giovanni, à la réalisation. On se retrouve demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.